Hier, Wall Street a mis fin à trois séances de baisse. Le Dow Jones reprenait 0,56%, le S&P 500 0,46%, 9 secteurs sur 11 étaient dans le vert, 60% des valeurs de l'indice qui montent. C'était un vrai rebond, bien large, bien propre, presque rassurant. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que le rendement du 10 ans américain a baissé de 0,2%. Sur un taux à 4,79%, ça revient quand même à se mettre au régime en enlevant le cornichon qu'on trouve à l'intérieur du burger chez McDo. Vous savez, ce truc rabougri qui a le même goût que le papier qui emballe le burger. Mais c'est même pas ça le plus dingue de la journée. Le plus dingue, c'est ce qu'un patron de la Fed est venu raconter à la télé 2 heures plus tard. Et là, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir laisser passer ça. Alors restez encore un peu avec moi parce que je vais lui répondre dans cette vidéo. Et si vous tenez jusqu'au bout, eh bien, je vous raconte comment 40 bateaux fantômes ont traversé un détroit miné pendant la nuit sans jamais quitter le port. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 septembre 2026 et je suis Thomas Veillet. Au programme aujourd'hui, un rebond construit sur du vide, un banquier central qui nous prend pour des enfants et ça, c'est pour rester poli, un marché de l'emploi qui se dégrade pendant que la Fed s'apprête à taper dessus et du diesel qui devient compliqué à trouver et qui est bien sûr trop cher. Septembre, c'est la saison du cirque et ça tombe bien, cette année, il y a des clowns.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Mercredi matin, le 10 ans américain a touché 4,81, presque 4,82, son plus haut depuis le 1er novembre 2023. À ce moment-là, les actions ouvrent en baisse, les semi-conducteurs perdent jusqu'à 1,2%, tout le monde a la tête entre ses mains et on commence à parler d'apocalypse obligataire avec des majuscules partout. Et puis, sans raison particulière, le rendement redescend tout doucement et on clôture la journée à 4,79, 0,2 de point de base plus bas. Et à partir de là, tout se remet à monter. Nvidia prend 3%, les compagnies aériennes décollent, le VIX repasse sous les 16. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du marché? Ce que ça nous dit, c'est très simple et c'est pas forcément très rassurant. Plus personne ne regarde les bénéfices, plus personne ne regarde la guerre, plus personne ne regarde l'inflation. Tout le monde fixe une seule ligne sur un seul écran et cette ligne, c'est le taux à 10 ans américain. On a construit un marché de dizaines de milliers de milliards de dollars qui réagit comme un chien qui a entendu le frigo s'ouvrir et du papier se froisser quelque part. Maintenant, là où ça devient franchement comique, c'est au niveau des explications. Depuis lundi, tous les commentateurs de la planète commencent à nous expliquer la même chose. Les taux longs montent parce que les États sont surendettés, parce que l'inflation revient par le baril et les matières premières, et surtout parce que le marché ne veut plus avaler tout le papier qu'on lui sert. Enfin, pas à ce prix-là en tous les cas. Et puis mercredi matin, John Williams est passé à la télé. Alors, John Williams, 2 mots à propos du personnage. Williams, c'est le patron de la Fed de New York. Et surtout, c'est le seul président régional qui vote à chaque réunion. C'est pas un second couteau. Quand il parle, ça compte quand même beaucoup. Et qu'est-ce qu'il vient de nous dire hier? Ben, il nous a dit que si les rendements montaient, c'est le signe d'une économie américaine solide portée par les investissements dans l'intelligence artificielle et les data centers. Comme c'est intelligent et comme c'est original. Sa phrase exacte, celle qui a fait changer d'avis la planète entière ou a rassuré la planète entière, c'est la suivante. Il ne s'agit pas des conditions financières qui affectent l'économie, il s'agit de l'économie qui affecte les conditions financières. Non mais allô, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Traduisons ça en français, on va dire un peu plus normal. Si votre crédit immobilier coûte plus cher aujourd'hui, réjouissez-vous, c'est que tout va bien sur l'économie. C'est le raisonnement du garagiste qui vous explique que s'il y a de la fumée qui sort du capot moteur, c'est que le moteur il bosse à fond. Et alors le marché il s'est pas posé la moindre question. Personne ne s'est interrogé, personne n'a osé la contradiction. Le marché, il a acheté en bloc, sans jamais discuter. Le même marché qui, 48 heures plus tôt, jurait que ces taux annonçaient la faillite du monde développé, a décidé qu'ils annonçaient soudainement la croissance éternelle des États-Unis. Même chiffre, 2 histoires opposées, 3 jours d'écart, et pas un seul stratège pour venir remettre la chose en question. Et ça, c'est la vraie information de la journée. Le niveau du taux ne change rien. Ce qui change, c'est le narratif qu'on décide d'utiliser. Le narratif qu'on décide de croire ou qu'on a envie de croire. Alors du coup, moi, j'ai écrit le mien. Voici donc ma réponse à John Williams, patron de la Fed de New York. Quand même. Alors, je ne suis pas banquier central, ni à la Fed de New York, ni ailleurs d'ailleurs. Mais si on réfléchit de manière, on va dire, pragmatique et logique, ça pourrait donner ça. Donc, Monsieur Williams est passé à la télé mercredi nous expliquer que si les taux longs s'envolent, c'est la faute au succès de l'économie américaine. La faute à que ça va trop bien. L'économie est solide, les milliards s'engouffrent dans les data centers, la demande de capital explose, donc le loyer de l'argent monte. C'est mignon. Et c'est même partiellement vrai. Et c'est surtout la seule chose qu'un éminent membre de la Fed a le droit de dire à voix haute. Parce que la version alternative reviendrait à annoncer en direct à la télévision que le monde entier commence quand même à se méfier de la signature américaine. Vous imaginez? Il ne peut pas se permettre. Il ne peut vraiment pas faire ça. Sauf qu'un taux à 10 ans, ça ne se calcule pas par applaudissement. C'est trois choses mélangées au shaker et pas à la cuillère. Tout d'abord, ce que pourrait faire la Fed. Ensuite, ce que pourrait faire l'inflation. Et en trois, ce que l'investisseur exige en plus pour accepter de bloquer son pognon pendant une décennie dans un monde pareil, avec des politiques pareilles, des gouvernements pareils et une géopolitique aussi merdique que celle qu'on a en ce moment. Et aussi un peu pour avoir envie de faire confiance à cette Amérique qui doit redevenir great again. Et c'est ce troisième étage de la fusée qui commence à donner des signes d'angoisse. Regardez quand même ce qu'on lui demande d'avaler à cet investisseur. 40 000 milliards de dettes fédérales qui augmentent de 100 milliards tous les 10 jours, des déficits qui ne se résorbent pas, bien au contraire, un baril à 95 dollars sur le Brent, une guerre dans son septième mois et qui sent bien parti pour faire partie du paysage et des meubles ces prochaines années, un blé qui prend l'ascenseur, d'autres matières premières également qui prennent l'ascenseur et par-dessus tout ça, les géants de la tech qui viennent taper à la même porte pour demander du pognon pour financer leur hangar à serveurs. Alors non, ce marché n'est pas en train d'applaudir. C'est un fournisseur qui voit la demande exploser et donc qui assez logiquement monte ses prix. Et si j'osais, il y a encore deux points que je voudrais juste souligner. Le premier, c'est que si les taux montaient vraiment parce que l'Amérique est si formidable que ça, les actions devraient exploser avec ces taux qui montent. Elles s'envoleraient. Or, là, d'accord, ça baisse pas vraiment, mais c'est pas l'euphorie non plus. Et encore moins quand le 10 ans commence à taper les 4,81, 4,82, puis attendez qu'on tape les 5. Le deuxième, c'est que si les capitaux du monde entier se ruaient sur la croissance américaine, le dollar devrait logiquement se renforcer. Or, il recule. Alors d'accord, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais des taux qui montent avec une devise qui faiblit, c'est plutôt la signature d'un pays à qui on réclame une prime de risque, et pas celle d'une locomotive. Arrêtez-moi si je me trompe. Et puis alors, il y a l'argument que Williams évite très soigneusement. Le Japon vient d'envoyer son 10 ans au-dessus de 3% pour la première fois depuis 30 ans, et le Bund allemand est au plus haut depuis 2011. Et je parle même pas de l'OAT française, du 10 ans italien, ou même espagnol. Non, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de boom de data center à Osaka, ni à Francfort, et encore moins à Ibiza, ou dans les collines de Toscane. Quand la même chose arrive partout en même temps, c'est pas l'économie locale qui est en train de parler, c'est le prix mondial de la duration qui est en train de se réajuster. Et ça serait différent aux États-Unis? Bref, selon la Fed de New York, les taux longs disent « bravo ». Selon moi, ils disent « vous voulez tous mon argent en même temps, au même moment, le même jour ». Ok, bah ça sera plus cher. Le 10 ans à 4,80, le 30 ans à 5,26, c'est pas une ovation, c'est pas des applaudissements, c'est une addition. Et aujourd'hui, personne ne sait vraiment qui est-ce qui va régler cette addition. Ceci dit, je vais être honnête jusqu'au bout, hein. Politiquement parlant, le discours de Williams, c'est le seul qu'il pouvait décemment faire en ce moment. Il n'a pas le choix. C'est pas une analyse légère, c'est une analyse contrainte. Ce qui, entre nous, est presque pire. Bon, maintenant que le sujet des taux qui célèbrent l'économie est derrière nous, on peut passer aux chiffres qu'on a eus hier. L'ADP a publié 38 000 créations d'emplois en août. On attendait 47 000. C'est donc le rythme le plus faible depuis le mois de janvier. Le secteur manufacturier, lui, il a carrément détruit 17 000 postes. Et attention, parce que le détail est encore meilleur que le total. Sur les 48 000 créations dans les services, 45 000 viennent de l'éducation et de la santé. C'est-à-dire que les seuls secteurs de l'économie qui embauchent, quoi qu'il arrive, parce que les gens vieillissent et parce que les enfants vont à l'école, guerre ou pas guerre, récession ou pas récession, il faut quelqu'un à l'hôpital et quelqu'un devant la classe. Donc, sortez l'hôpital et l'université des statistiques d'hier et il reste à peu près rien. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui fait le marché? eh ben, ils pricent entre 61 et 66% de probabilité d'une hausse des taux le 16 septembre. Une hausse. Il y a une semaine, on était encore à 36%. Une hausse des taux avec des créations au plus bas de l'année et des chiffres officiels qui étaient négatifs au mois de juillet, moins 23 000, rappelez-vous. Demain, vendredi, à 14h30, on aura un rebond attendu à 55 000 sur les NFP. Alors, reste à voir comment le BLS va réussir à caser ça dans ses tableaux Excel. Sachant que l'administration Trump a un intérêt tout particulier à ce que le chiffre soit joli, 6 semaines avant les élections de mi-mandat, et que le même gouvernement a le pouvoir de foutre les patrons du BLS dehors à la première insatisfaction. Le résumé de la situation tient donc en une ligne et elle est quelque part un peu absurde. La Fed s'apprête à taper sur une économie qui ralentit pour lutter contre une inflation qu'elle ne contrôle plus. Parce que cette inflation, elle vient d'un baril à 95 dollars. Et parce que ce baril à 95 dollars vient d'un type qui pose des mines dans un détroit et d'un autre qui lui tire dessus parce qu'il pose des mines dans un détroit. Aucun niveau de taux directeur n'a jamais rouvert une voie maritime. Mais on va quand même essayer, hein, parce que quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou de toute façon, même une mine sous-marine. Dans la section humour de ce Morning Bull Live, on va parler piraterie et bateaux fantômes. Hier, je vous racontais que Washington affirmait avoir fait passer 17 millions de barils par Hormuz, alors que les données de suivi maritime comptaient 5 navires, et qu'il aurait donc fallu que chacun soit 70% plus grand que le plus grand bateau jamais construit. Nouveauté du jour, CNN, en citant deux responsables américains, nous apprend que l'armée a escorté 40 navires commerciaux transportant 18 millions de barils à travers le détroit. 40 ! Donc en 24 heures, la flotte a été multipliée par 8 sans qu'un seul bateau n'ait quitté le port. Simplement parce que quelqu'un, quelque part à Washington, a rouvert son tableur et s'est aperçu que le chiffre de la veille ne tenait pas debout. Et alors là, il faut être honnête, hein, cette fois les proportions fonctionnent. Hein, 450 000 barils par navire, c'est tout à fait probable, parfaitement crédible. La comptabilité de guerre est en train de s'améliorer, il faut le reconnaître et il faut aussi les féliciter. Le seul petit problème, c'est que du côté du suivi maritime, on n'a toujours pas vu les 40 navires en question. Alors bon, pour être gentil, on va dire que la Navy escorte des bateaux fantômes, comme ça tout le monde sera content. Il paraît même que hier, il y a le Black Pearl qui a traversé le détroit d'Ormuz. Et sur le terrain, pendant ce temps, c'est nettement moins drôle. Les États-Unis ont mené une deuxième vague de frappes en 3 jours sur les radars, les matériels de pose de mines de la côte sud iranienne. Téhéran a riposté aux drones et aux missiles sur les bases américaines de la région. Et interrogé sur la durée de la campagne, Trump a répondu « Oh, je pense que ça ne durera pas trop longtemps. » Ça fait juste 7 mois qu'il nous raconte les mêmes conneries. Le Brent a immédiatement perdu 0,6%, parce que oui, le marché du pétrole aujourd'hui, c'est plus l'offre et la demande, ce sont les conséquences directes des bruits de couloir de la Maison Blanche. Et justement, parlons de ce baril, parce qu'il y a un chiffre qui compte en ce moment, et c'est pas le prix du spot. Oui, le Brent a clôturé à 95,63, troisième séance consécutive de hausse. Ce matin, il retombe vers 95,20 pendant que le WTI est à 91. Mais maintenant, regardez juste le vrai sujet. Les stocks de brut américains ont été annoncés hier et ils ont chuté de 4,5 millions de barils la semaine dernière. Le département de l'énergie a de nouveau puisé 3,1 millions de barils dans la réserve stratégique. Celle-là même qui, je cite, approche des niveaux critiques. Et surtout, surtout, les stocks de diesel sont au plus bas jamais enregistrés pour cette période de l'année, juste avant la saison où les agriculteurs et les routiers consomment le plus. C'est ballot, hein ? Alors pourquoi est-ce que je vous embête avec le diesel ? Mais parce que le diesel, c'est le carburant qui déplace tout ce que vous achetez, absolument tout. Quand on manque de diesel, c'est pas un graphique qui bouge sur un écran à Chicago, c'est le prix de tout qui est en train de monter. Le camion qui livre le supermarché, le tracteur qui ramasse ce que vous êtes censé manger cet hiver. Et quand le baril redescendra, parce qu'il redescendra un jour forcément, le prix à la pompe, lui, bah, il mettra 6 mois à s'en apercevoir. Le prix à la pompe aujourd'hui, c'est la seule loi physique que je connaisse qui ne fonctionne que dans un sens. Et puis alors que l'on ne se lasse pas d'écouter les gens qui nous dirigent et qui savent mieux que tout le monde, je vous livre quand même le dernier numéro de stand-up de Scott Bessent. Scott Bessent a été interrogé hier sur Fox à propos du coût de la vie. Et le secrétaire au Trésor a expliqué que la flambée de l'énergie venait d'abord des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. D'abord, il a cité Kiev, avant de citer Téhéran et Trump. Six mois de guerre, un détroit miné, un blocus naval, et le coupable, c'est l'Ukraine. Mais bon, je vous rassure, on nous prend pas pour des c***, surtout pas Scott Bessent. Passons maintenant rapidement aux résultats d'hier, parce qu'il y a un truc assez fascinant qui est en train de se passer sous nos yeux. Broadcom a publié mercredi soir, écoutez juste les chiffres, hein, 29,6 milliards de chiffre d'affaires en hausse de 86% sur une année. Un bénéfice par action qui double quasiment, des ventes de puces pour l'intelligence artificielle en progression de 221%. Et sur la conférence téléphonique, le patron annonce que ses ventes ont doublé à 115 milliards en 2027, puis doublé encore à 230 milliards en 2028. 230 milliards de dollars de cartes électroniques vendues en une seule année. Et il ajoute que la demande est en train de dépasser cette même prévision. Réaction du titre ? Moins 1,5% hier soir. Et sur l'année, l'action affiche quand même 6% de hausse contre 54% pour l'indice des semi-conducteurs. C'est la quatrième pire performance de tout son propre secteur. Alors pourquoi ça ? Eh bien, parce que la prévision du trimestre en cours ne dépasse les attentes que d'un cheveu. Parce que la marge opérationnelle a été ratée d'un demi-point. Parce que Google, son plus vieux client, est allé signer avec un concurrent. Et parce qu'un montage avec deux fonds d'investissement l'expose à hauteur de 29 milliards d'obligations de leasing si jamais les locataires du data center cessaient de payer le loyer. Le mot financement circulaire a donc été prononcé hier soir. Et dans ce marché, prononcer financement circulaire, c'est un peu comme éternuer dans un ascenseur en pleine épidémie de grippe ou prononcer le mot Voldemort. Donc une boîte peut annoncer qu'elle va multiplier son chiffre par 4 en 2 ans et se faire sanctionner quand même, battre les attentes ne rapporte plus rien et ça devient carrément récurrent en ce moment. On passe maintenant à autre chose, Palo Alto que je vous donnais hier à plus 5%, après la clôture ils ont fini à moins 9,3%, pire performance du S&P 500. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a fini par lire les documents jusqu'au bout et remarqué que la marge brute reculait sur un an. 24 heures entre l'euphorie et la défenestration. Credo Technologies perd 20% avec un bénéfice pourtant supérieur aux attentes, uniquement parce que la marge n'a pas atteint son objectif. Hewlett Packard Enterprise publie un trimestre record et se prend 5% dans les dents after close parce que son patron a lâché que la pénurie de composants durerait jusqu'en 2028. Et Snowflake s'envole de 22% en publiant une marge brute en baisse. Vous voyez la mécanique ? Tout le monde vend plus, tout le monde gagne moins. Et le marché a enfin appris à regarder ce qui restait vraiment dans la poche à la fin. Faire de l'IA, ça coûte une blinde à absolument tout le monde, sauf à ceux qui vendent des puces. Des puces mémoire surtout. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce jeudi 3 septembre 2026 ? On retient tout d'abord qu'un marché de dizaines de milliers de milliards de dollars a rebondi parce qu'un taux a baissé de 0,2%. On retient qu'un des hommes les plus puissants de la finance mondiale est venu nous expliquer à la télé que des taux qui s'envolent, c'est une bonne nouvelle et que personne, absolument personne, ne lui a dit le contraire. On retient que la Fed s'apprête à monter les taux pendant que l'emploi américain se dégrade et on retient que 40 bateaux fantômes ont traversé un détroit miné cette nuit. Mais bon, je vous garde quand même le meilleur pour la fin parce que c'est vraiment trop beau encore une fois. Donald Trump a fait savoir mercredi qu'il souhaitait rebaptiser le détroit d'Hormuz en détroit Trump. Et ceci à moins d'une semaine après avoir signé un décret renommant le lac Ontario en Lake America, ce qui, au passage, a foutu un joyeux merdier chez Apple et Google condamnés à décider quel nom afficher sur leur carte. Donc, pendant que la marine américaine escorte des pétroliers fantômes à travers un chenal miné, que le baril est à 95$ et que les gens payent leur plein toujours plus cher, le président de la première puissance mondiale s'occupe de géographie. Remarquez, il y a une logique assez imparable là-dedans. On peut pas rouvrir le détroit, mais par contre, on peut le renommer. Ça noie un peu le poisson. Et la prochaine fois que vous ferez le plein en jurant, vous saurez au moins à qui adresser vos remerciements. Le nom sera écrit sur la carte du monde. Aujourd'hui, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, parlera, et honnêtement, ça sera l'information la plus intéressante de la journée, parce qu'on va voir s'il est d'accord avec Williams ou pas. Ensuite, inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 et activité des services américains dans la foulée. Mais soyons honnêtes, 3 minutes, hein. Tout est suspendu au rapport officiel sur l'emploi de demain à 14h30. C'est ce chiffre-là et lui seul qui décidera si la Fed monte ses taux dans 13 jours. Moi, je suis en déplacement demain, de retour lundi, mais pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il y aura le Swiss Bliss samedi matin sur la chaîne Swissquote en français, où on débriefera justement ces chiffres de l'emploi. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez l'histoire, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et moi, je vous dis bien sûr à samedi pour le Swiss Bliss, à lundi pour un prochain Morning Bull Live. Et la prochaine fois qu'un banquier central vous explique que des taux qui montent, c'est une bonne nouvelle, posez-vous une seule question. Est-ce qu'il dit ce qu'il pense ou est-ce qu'il vous dit ce qu'il a le droit de dire ? Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.